Physique à Fribourg, le 31 mai 83, 4e cours.
Je vais faire une parenthèse, je ne sais pas si je peux en faire une. Sur la personne du Christ, afin de montrer comment une vision philosophique sur la personne peut aider à expliciter le mystère et à écarter certaines erreurs. Je vais aller vite, hein. Vous êtes d'accord? C'est de la philosophie, c'est pas de la philosophie entièrement, mais c'est de l'usage de la philosophie par rapport à l'autre. Deux natures et une seule personne. La personne divine permet à la nature humaine de subsister et termine substantiellement cette nature. Étant donné qu'en Dieu, en raison de sa simplicité et de son unité, être, connaissance et amour, ne se distingue pas, la personne divine du Christ subsiste, connaît et aime et assume la nature humaine qui, elle, ne subsiste pas, mais permet au Christ de connaître par ses sens et d'aimer avec sa sensibilité. C'est sûr. La nature humaine dans le Christ est parfaite comme nature, mais elle subsiste dans le Verbe. Donc en subsistant dans le Verbe, elle a une manière d'exister qui est plus parfaite que si elle subsistait selon sa nature humaine, selon sa personne humaine, et donc elle subsiste d'une manière plus parfaite. Si elle subsiste d'une manière plus parfaite, par le fait même, toutes les opérations de la nature humaine vont être plus parfaites. C'est sûr. Elles seront plus parfaites du côté de l'intensité. C'est le pot et le corps. Hein. La nature, c'est le pot, et du fait qu'elle subsiste en Dieu, le poids le plus parfait. Donc toutes les opérations et l'intensité plus grande. Elles sont les mêmes selon leur nature. La vision que le Christ a de son œil est la même que celle que j'ai avec mon œil. Mais cette vision avait une intensité plus grande que la mienne. Parce que de fait, la nature humaine du Christ subsiste dans le Verbe. La nature et une seule personne divine, deux natures et une seule personne divine, vont donc impliquer une unité au niveau de l'être, mais aussi au niveau de l'esprit. Et donc, au niveau de l'esprit, je ne vois pas très bien. Donc, deux natures et une seule personne divine vont donc impliquer une unité au niveau de l'être, c'est-à-dire au niveau de la personne. Au niveau de la subsistance, donc c'est au niveau de l'être, mais aussi au niveau de l'esprit. Non, pas au niveau de l'esprit. Puisque au niveau de l'esprit, c'est l'intelligence et la volonté. Or, les deux natures. Mais aussi au niveau de l'esprit et donc de la connaissance et de l'amour. La vision philosophique sur la personne me donne-t-elle une convenance à l'égard de la vision béatifique du Christ ? Tant remise en question. C'est-à-dire tout simplement ce fait que deux natures, donc la nature, c'est pour ça que là il y a quelque chose qui n'est pas bien exprimé. Deux natures, la nature divine a une simplicité absolue. En Dieu, tout est un. Puis la nature humaine, dans une seule personne, qui est le Verbe, qui est le Verbe en laquelle la nature divine subsiste comme fils. Et cette nature et cette personne divine, le Verbe, assume la nature humaine. Cette nature humaine a les trois degrés. Et donc, en tant qu'esprit, elle a l'intelligence et la volonté. Et ce que je disais tout à l'heure à propos de la vision, c'est la même chose pour l'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté du Christ sont substantiellement et spécifiquement les mêmes que les miennes. Les mêmes que chacun d'entre nous. La seule différence, c'est qu'elle est parfaite au point de vue intensité. Il n'y a pas la moindre erreur. Il n'y a jamais eu l'erreur dans l'intelligence du Christ. Il n'y a jamais eu de mauvaise volonté dans la volonté du Christ. Donc, il y a une rectitude beaucoup plus parfaite du côté de l'intelligence et de la volonté. mais cette intelligence, cette volonté subsiste dans le verbe. Si elle subsiste dans le verbe, du côté de l'être, elles atteignent leur terme. C'est ce qui fait expliquer comment la nature humaine du Christ va être source d'une grâce plénière. Il faut passer par le mystère de la grâce. La nature humaine du Christ va recevoir une grâce plénière qui provient de la source. Plus on est proche de la source, plus on reçoit. Et c'est pour ça que la grâce dans le Christ est plénière. C'est une grâce plénière qui transforme l'humanité sainte du Christ, l'humanité humaine du Christ, qui la transforme d'une manière unique. Et parce que cette grâce est plénière et qu'elle atteint, grâce à la subsistance divine, son terme, immédiatement, cette grâce doit conduire à la vision béatifique. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que la vision béatifique est, fait partie, si vous voulez, directe de la sanctification de l'unité sainte du Christ. Parce que cette unité subsiste dans le Verbe. Donc elle atteint son terme. Pouvez-vous préciser ce qu'apporte la philosophie première à l'égard de l'explicitation de l'unité de connaissance et d'amour dans le Christ? L'unité, attention, il n'y a pas l'unité, il y a deux connaissances. Il y a celle de la nature divine et celle de la nature humaine. Il y a deux vies dans le Christ. Il y a la vie humaine et la vie divine, qui toutes les deux sont unies dans la même personne.
Oui. Est-ce que la question ne veut pas faire allusion à cette phrase « Dieu, nul ne l'avait jamais vu, mais le Fils qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a révélé. »
Oui.
Donc si le Christ a pu nous révéler dans le langage de l'homme...
C'est par sa nature humaine.
C'est ça. Mais parce qu'il avait la vision...
Oui, mais son intelligence n'est pas une avec l'intelligence divine.
Non, elle est immédiatement illuminée.
Elle est immédiatement illuminée par la grâce et par la plénitude de grâce. Et comme cette plénitude de grâce est parfaite parce qu'elle est unie à sa fin, elle implique immédiatement la vision béatifique. Mais cette vision béatifique n'est pas la même que la connaissance que le Verbe lui-même. Donc il n'y a pas unité de connaissance. Il y a deux vies différentes. Oui, dans l'unité de personne. Alors, qu'apporte la philosophie? C'est que la philosophie permet de distinguer le point de vue de la vie et de l'être. Voilà ce qu'apporte la métaphysique. La métaphysique apporte une distinction extrêmement précieuse qu'en dehors de la métaphysique, on entend. La distinction entre la vie et l'être. Alors, je peux pousser la distinction au niveau de la nature et au niveau de la vie le plus loin possible dans l'unité de l'être. Tandis que si je n'ai pas de métaphysique, je risque toujours de confondre âme et substance et de confondre être et vie. Oui. C'est là où la métaphysique est nécessaire. Bon, s'il y a des questions, s'il y en a qui ont des questions par rapport à cela. Alors nous allons continuer ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très important de voir que Descartes, troisième moment, je vous ai dit, il faut absolument connaître la position de sa pensée. Il faut absolument connaître Augustin, Anselme, Thomas. Voilà les trois grandes positions. Quatrième grande position, celle de Descartes. On ne peut rien comprendre à notre monde moderne si on ne voit pas Descartes. Ça, je crois. Une connaissance de Descartes qu'on doit avoir. C'est nécessaire. Je dirais même plus que Kant, vous voyez. Parce que Descartes est avant Kant. Et Descartes est le lieu entre les deux. Gilson a fait une petite étude extrêmement intéressante à ce point de vue-là. Parce qu'il a très bien compris ça en histoire, là, il faut le reconnaître. Il a très bien compris combien Descartes était celui qui allait modifier complètement la philosophie. La philosophie avant était ordonnée vers la vérité, la philosophie est ordonnée vers le point de vue de la certitude. Et alors, à ce point de vue-là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Gilson a très bien compris que Descartes continuait d'employer le langage scolastique, mais donnait au langage scolastique une signification toute nouvelle. Et comme le jeu c'est l'herméneutique. Les mots qui prennent de nouvelles significations. Alors là, c'est très intéressant pour ça. C'est très intéressant de voir comment, de fait, et il a fait un petit lexique qui est intéressant, parce que ça nous fait comprendre comment, avec les mêmes mots, on entre dans une autre signification. Alors, quand il s'agit du problème de Dieu, prenez, parce qu'au fond, il y a les deux aspects dans Descartes, c'est le problème de la connaissance et le problème de Dieu. Et le problème de la connaissance et le problème de Dieu se rejoignent. C'est ça qui est extraordinaire chez Descartes. C'est que si je prouve l'existence de Dieu, c'est pour me donner la certitude de la connaissance du monde physique. Je me sers de l'exister de Dieu pour être certain de ne pas me tromper. C'est merveilleux. Se servir de l'exister de Dieu pour être certain de ne pas me tromper. Vous le trouvez. Ça ne me dépasse pas mieux, moi. Et c'est. Il faut qu'il était inquiet, une inquiétude folle. Il était dans le doute méthodique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Descartes? C'est intéressant à bien saisir ça, parce que ça me semble capital, moi, ça, cette position de Descartes. Pour comprendre même l'athéisme contemporain, comprenons bien. Sartre l'a dit. Et Sartre n'est pas un imbécile. Il est malin. Il n'est pas dans la vérité, mais il est malin. Bien, Sartre a dit des choses très étonnantes sur Descartes. C'est dans l'introduction à la nouvelle édition de la liberté, l'édition de la liberté sur le discours de la méthode. Petite édition, je ne sais plus en quelle année elle est parue, mais très belle petite édition de Descartes, avec une préface extraordinairement intelligente, plus intelligente que le discours de la méthode. Et extraordinaire, c'est d'une intelligence, une perspicacité étonnante. Et Sartre dit, si Descartes avait vécu notre temps, il serait le premier athée. C'est assez beau ça, hein, dire ça. C'est assez étonnant. Sartre montre comment les principes de Descartes conduisent à la vie. C'est exactement le même dialogue entre Hans Kuhn et Rameau. Hans Kuhn dit, c'est le même, c'est un peu plus proche évidemment, mais c'est le même dialogue. C'est intéressant ce dialogue de maître et de disciple. Hans Kuhn dit à Rameau, je ne comprends pas pourquoi vous me condamnez, puisque je suis vos principes. Mais j'y vais jusqu'au bout. Alors, Sartre dit à Descartes, je ne comprends pas pourquoi vous me condamnez, je suis vos principes jusqu'au bout. C'est très curieux, ça. C'est très intéressant. Vous voyez, c'est très intéressant parce que ça fait comprendre les tournants. Ça. Et là, il y a un tournant qui est très très important à comprendre. Descartes, lui, dit, nous ne pouvons pas nous servir de nos sensations. Par le fait même, le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Enfin, il le fait, hein, avant que ce soit exprimé par Husserl. Mais il le fait déjà. Le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Où se trouve en moi la certitude, c'est le cogito. C'est ce que j'ai dit déjà, enfin, c'est le cogito. Rien avant le cogito est certain. Parce que la réalité physique, je ne peux la rejoindre que par la sensation. Donc, vous voyez, il prend la position hockhamienne du jugement d'existence. Et la position hockhamienne du jugement d'existence, c'est considérer que je ne touche la réalité physique que par les sensations. Et que l'intelligence du jugement d'existence vient s'ajouter de l'extérieur. Elle n'est pas présente dans les sensations. Par le fait même, si les sensations qui sont le seul contact avec la réalité physique peuvent me tromper, la méthode du doute consiste à dire soyons prudents, soyons prudents. Donc laissons de côté les sensations. Et commençons par lui, c'est absolument certain. Qu'est-ce qui est absolument certain? C'est le cogito. Ça, personne ne peut me déloger dedans. Oui, pensez à une forteresse avec des ponts-levis. C'est exactement ça. Je lève les ponts-levis et je jette de la pierre. Hein? Parce que les ponts-levis, c'est ce fait sur le terrain de base. Hein? Tandis que je lève les ponts-levis et je m'en fais dans le cogito, c'est-à-dire dans l'inconscient. Je suis dans une subjectivité absolue, cogito. Quand on dit cogito tout court, c'est cogito, moi, je pense à moi. Autrement, je dirais que je pense à quelqu'un d'autre. Et comme le mot est indissable, on dit cogito. Je pense. Mais en réalité, quand vous dites je pense, vous pensez à vous. C'est vous qui avez parlé. Donc, c'est la subjectivité absolue. C'est le point de vue de la conscience. J'ai conscience de penser. Si j'ai conscience de penser, je suis là devant la certitude la plus grande. Or, le cogito, je cogite, je pense, va impliquer des idées. Et parmi ces idées, il y a une perception. Et c'est ces idées innées, ces idées innées, donc qui ne sont pas acquises par les sensations, elles sont innées. Et elles sont innées dans le cogito. Ces idées innées vont, cette idée innée de perfection ou d'infini, va m'obliger à poser l'exister de Dieu. J'atteins Dieu par la perfection. J'atteins Dieu par l'infini. Je l'atteins dans une causalité, je considère que c'est une causalité. En réalité, ce n'est pas une causalité, c'est un ordre. Il y a une réalité. L'idée de perfection ne peut pas être absolument première. L'idée de perfection est seconde. Donc, puisque l'idée de perfection existe, il faut que l'autre existe. C'est pas une question. Alors, il dit que c'est une causalité, mais c'est la causalité au niveau de la forme intentionnelle. Donc, c'est pas à partir de la réalité que je pose X et W, c'est à partir de mes idées innées. Alors ceci, c'est la preuve a posteriori. Mais cette preuve a posteriori ne contente pas Descartes, il faut aller plus loin, il faut découvrir une preuve a priori. C'est la preuve a priori qui seule pourra vraiment prouver l'essence de Dieu. Vous voyez, dans la preuve a priori, je vais retrouver une idée qui implique nécessairement de poser l'existence de Dieu. Et c'est ce qui appellera la preuve par un mode géométrique, c'est-à-dire une preuve a priori à partir de la définition de Dieu. Je ne la vois pas avec vous, on n'a pas le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, à partir de là, l'ontologie est posée. Et c'est ça qu'il faut saisir. Il ne faut pas confondre la position philosophique de l'ontologisme et l'ontologie. C'est l'ontologisme, il y a un isme, qui fait que l'ontologie, c'est la position, l'argument de l'ontologie, c'est dire que je pose immédiatement l'existence de Dieu à partir de la présence que j'ai en moi. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut saisir. C'est la confusion dans l'ontologisme entre l'ordre de l'intentionnalité et l'ordre de l'exister. À partir de l'intentionnalité, je pose l'exister. L'ontologisme premier, c'est celui de Malebranche. Malebranche dit tout simplement que je vois tout dans l'exister de Dieu. C'est à partir de l'exister de Dieu que je vois tout. Peut saisir tout à partir. Je me saisis moi comme fini, et nécessairement le fini est connu par l'infini, et donc je ne peux connaître que par rapport à Dieu. Donc, dans cette condition de l'ontologie, qui suit directement Descartes, Saint Anselme, Descartes, Malebranche, il avait la position de l'ontologisme, le premier ontologisme. Et pour le premier ontologisme, on voit toute chose en Dieu. Donc, je vois ce qu'est l'homme en Dieu. Et c'est très facile à comprendre. L'homme est fini. Or, le fini peut se comprendre que par l'infini. Par le fait même, c'est à travers l'infini que je vois Dieu. Oui, ce n'est pas une preuve a posteriori, c'est a priori. C'est que le fini exige de poser l'infini. Et directement, immédiatement, parce qu'autrement, il ne serait pas fini. Donc il exige de poser un... Vous êtes en présence de Dieu qui devient une mesure. Dieu qui devient cause exemplaire. Je ne connais ce que je suis, donc l'homme. Je ne connais l'homme qu'à partir de Dieu. Alors, je crois ça très important à saisir. Parce que je crois qu'on peut dire, et ce serait intéressant à voir, que toutes les formes d'ontologisme, elles sont multiples, hein, il n'y a pas qu'une seule forme d'ontologisme. Toutes les formes d'ontologisme vont être source d'un certain athéisme. Et c'est pour essayer de comprendre comment est né l'athéisme dans notre monde occidental. L'athéisme est né dans notre monde occidental à partir de l'ontologisme. Et l'ontologisme, c'est une confusion entre la foi et l'intelligence. Malebranche est prêtre. Malebranche se veut philosophe, mais ceux qui ont lu un peu de Malebranche, c'est intéressant à lire, c'est facile à lire, très très facile. Pas besoin d'avoir une très forte intelligence pour lire Malebranche. Les sermons de Malebranche sont faciles à comprendre. Et tout est un peu au niveau du sermon. Alors c'est facile à comprendre. Alors vous comprenez tout immédiatement Malebranche. Alors c'est quoi? Vous pouvez saisir immédiatement Malebranche, vous saisissez immédiatement ce philosophe ecclésiastique qui a été l'origine de l'ontologisme. Alors, pour Malebranche, on voit tout dans les idées de Dieu. Et Malebranche a ce privilège unique de tout voir dans les idées de Dieu. Vous voyez, ceci est vrai de la foi, il n'est pas vrai l'intelligence. J'ai parfaitement le droit de dire que la foi me permet de tout comprendre dans les idées de Dieu. Jugement de sagesse. Je vois tout dans les idées de Dieu. Donc, confusion entre l'ordre de sagesse et l'ordre d'investigation. Confusion entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Confusion entre l'ordre de l'intelligibilité et l'ordre de l'exister. Confusion entre la présence d'immensité de Dieu. C'est toutes ces confusions qui sont présentes. C'est un nid à confusion entre eux. C'est extraordinaire. Et il faut bien saisir. Confusion entre le point de vue de la présence d'immensité de Dieu, vu de sagesse, Dieu plus intime à moi-même que je ne suis intime à moi-même, en tant qu'il est créateur, ce que saint Augustin dit. Ça, je dis dans une vision de sagesse, à partir de la création. Et le point de vue de l'intelligibilité. Si Dieu est plus présent à mon intelligence que mon intelligence est présente à elle-même, c'est donc Dieu que je connais en premier lieu. Oui. Alors on confond cette présence d'immensité et la présence d'intelligibilité. Ça fait partie de toutes ces confusions. Oui, c'est un noyau à confusion. C'est extraordinaire. Il y a une très grande noblesse de cœur, mais une petitesse de l'intelligence. Parce que c'est toujours la confusion. Et il y a une très grande noblesse du cœur, c'est un plus grand, il y a quand même quelque chose de noble. Une noblesse de l'intelligence, une noblesse du cœur et une petitesse de l'intelligence. Alors à ce moment-là, l'ontologisme fait que l'homme devient relatif à Dieu d'une manière telle que l'homme n'a plus aucune autonomie. Alors on comprend cette réaction violente, il s'agit de libérer l'homme. La libération de l'homme vient de l'ontologisme. Et vous savez, la théologie de la libération, si vous êtes attentif, ça vient de confusion, ça en a. C'est parce qu'il y a eu des confusions entre la justice et la charité. La libération au lieu de la justice. C'est tout le temps la même chose. Alors, les réactions violentes de libération font que, de fait, à la place d'aller beaucoup plus loin, on est en 7 contre 1. À partir de l'ontologie, va naître donc les idéologies athées. Et les 7 ou 8 formes d'idéologie athée, parce que de fait il y en a 7 ou 8, ça dépend comment vous comptez, ça sorte peu, les 7 ou 8 formes d'idéologie athée sont en présence des 7 ou 8 formes d'ontologie. Alors ceci me permet, vous voyez, c'est ça l'intérêt, me permet de détecter la signification profonde au plan philosophique, comprenons bien, au plan philosophique de ces idéologies athées. Ces idéologies athées veulent libérer l'homme. Ce que le père de Lubac avait très fort souligné dans le temps. Un livre qui est très beau et qui reste encore actuel. À propos des idéologies athées, pour montrer que ces idéologies athées devaient se comprendre comme une libération de l'homme. Et c'est très vrai, c'est une libération de l'homme. Un désir de libérer l'homme pour qu'on retrouve l'autonomie de l'homme. Feuillard dit ça admirablement. Quand Feuillard dit, on projette sur Dieu ce qui est vrai de l'homme. Alors comprenons tout simplement qu'il s'agit de comprendre que l'homme possède en lui-même tous les attributs qu'on a de Dieu. Donc, retrouver l'autonomie de l'homme. Mais alors, à la place de retrouver l'autonomie de l'homme par une philosophie saine qui rejoint la réalité, c'est tout simplement un set contrat ontologique. Et les idéologies athées sont des anti-ontologismes et demeurent dans l'ontologisme. Comme souvent les deux contraires. Ben, deux positions contraires. Primauté de Dieu, primauté de l'homme. Primauté de Dieu en relativisant l'homme à Dieu, primauté de l'homme en supprimant Dieu. Mais des deux côtés, on a la même position philosophique d'un ontologie, c'est-à-dire d'une confusion entre le domaine de l'intentionnalité et le domaine de l'existence. Une fois qu'on a compris ça, ça rend beaucoup plus intelligent ce que nous vivons. Parce qu'on voit que tout dépend de Descartes. Et comment Sartre, c'est pour ça que ça m'intéresse que Sartre dise, parce que vous allez me dire, c'est vous qui dites ça parce que vous n'avez pas Descartes, parce que Descartes tourne le dos à Aristote. Mais c'est vrai, Descartes tourne le dos à Aristote, volontairement et consciemment. Enfin, il tourne le dos à Aristote. Vous savez, à un moment tout à fait particulier où Descartes dit Aristote dit ceci, moi je dis l'inverse. Aristote dit qu'il faut d'abord le tour aussi. C'est très joli, parce que c'est très peu de choses, mais ça confirme exactement ce qu'Aristote disait. Une toute petite erreur au point de départ, une grande conséquence après. Alors, Aristote dit, et Descartes le dit en grec. Aristote met que le tour est premier et que le tiesti est second. Descartes dit, ah, pas du tout. C'est le tiesti qui est premier et le tour est second. Et le tour est joué. Alors j'explique. Le toati, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Et le tiesti, c'est la recherche de l'intelligibilité de la chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je me pose la question du tiesti après la constatation d'existence. Tandis que pour Descartes, il faut d'abord connaître le tiesti pour découvrir le toati. Donc, je parle du cogito, le tiesti, des idées, je parle du tiesti, des idées pour affirmer l'exister. Alors, une fois que je parle des idées, que je parle de l'intelligibilité, je ne peux plus jamais rejoindre l'exister. Donc, je m'enferme dans les idées. Alors, si on s'enferme dans les idées, ou on s'enferme dans l'idée d'infini, en disant l'infini, c'est Dieu, où je m'enferme dans l'idée d'infini en disant l'infini c'est l'enfer. Et c'est exactement ce que fait Feuerbach. C'est une simplification de mon sens. Je dis exactement ce que Feuerbach dit. Toute la thèse de Feuerbach repose sur l'idée d'infini. Toute la thèse de Feuerbach consiste à dire qu'il y a dans l'homme une capacité infinie de connaître les mêmes. Si l'homme est infini, Dieu n'a pas besoin d'exister. Parce que c'est l'homme qui est Dieu. C'est extraordinaire de dire ça. Mais en fond, c'est très logique. Parce que je pars de l'idée d'infini des deux côtés. Voilà ce qu'il y a de commun. Ce qu'il y a de commun entre l'ontologisme théologique et l'idéologie athée, c'est l'idée d'infini. C'est ce qu'il y a de commun entre les deux. Oui. Oui, c'est. Oui, mais à l'inverse. Oui, à l'inverse. C'est pour ça que ça dit ça. À l'inverse, oui. Parce que pour Descartes, l'idée d'infini qu'il possède en lui prouve l'existence de Dieu.
Mais ce que Feuerbach ne montre pas que ce qu'il atteint par cette preuve, c'est qu'au fond, l'attention vers l'infini même de l'homme.
Oui, mais c'est des deux côtés, je veux dire. Des deux côtés, c'est l'idée d'infini qui passe de l'idée à l'exister. Donc c'est la même erreur. C'est la même erreur. Des deux côtés, on se sert différemment de l'idée d'infini, et se servant différemment de l'idée d'infini, de l'idée d'infini, on passe à l'existence. Et c'est ça qui me semble intéressant au point de vue proprement connaissance, au point de vue philosophique. On est en présence d'une même philosophie qui a quelque chose de commun et qui aboutit à deux positions diamétralement opposées. L'une qui montre que l'homme est tout entier relatif à Dieu, l'autre qui montre que Dieu ne peut pas exister. Et au fond, nous aurions, chez Feuerbach, c'est très net, mais nous l'aurions à l'égard de toutes les idéologies athées. Chacune des idéologies athées va impliquer une opposition avec telle ou telle ontologie. Bon, je dis ça, c'est parce que notre situation à nous, au point de vue philosophique, on est en présence de ces idéologies athées. On est en présence de ces ontologies. La première chose, c'est de les renvoyer dos à dos. Ça, je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Déblayons le terrain. Bulldozer. Ça a du bon. Hein, quand on a... Il faut le bulldozer. Alors, une fois que vous avez montré que les deux sont parallèles, vous avez déblayé le terrain. Et vous pouvez à ce moment-là comprendre que les idéologies athées vous oblige de reprendre le problème à la racine, au-delà de Descartes. Je ne peux pas me servir de l'apologétique Descartes, ça ne sert à rien, au contraire, il faut la balayer. Il faut comprendre que, de fait, je ne peux remonter à l'existence de Dieu qu'à partir du jugement de l'existence. Je ne peux prouver l'existence de Dieu qu'à partir du jugement de l'existence. À partir des idées, je ne peux pas. Les preuves intérieures, l'expérience, ne peuvent pas. Parce que c'est ça qui a conduit à l'ontologisme. L'ontologisme est né de l'absolu des expériences internes. Les expériences internes poussées jusqu'au bout. Alors j'ai l'ontologisme. Les idéologies sont en opposition et demeurent dans la même position. Le primat de l'intentionnalité. Le primat d'intentionnalité est l'absolu de l'intentionnalité. Alors, je dois sortir de cette espèce d'opposition pour redécouvrir quelque chose de tout à fait premier qui m'est donné dans un jugement d'existence. Oui, une fois qu'on a saisi ça, on comprend que la position des idéologies athées d'aujourd'hui m'oblige à revenir à quelque chose de fondamental et de premier. Je ne peux plus, dans le monde d'aujourd'hui, rester dans une position d'ontologisme. Je ne peux plus. Les idéologies athées ont balayé le terrain et ne peuvent pas. C'est une opposition. Exactement comme Nietzsche nous délivre de Kant. Non, c'est vrai. Hegel aussi. Hegel, Nietzsche, une dérive de Kant. Mais c'est plus difficile après d'être délivré de Nietzsche et de Hegel, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que ça nous a délivré, c'est déjà quelque chose, moi, il ne faut pas se servir de ça. Ils ont fait mouche là, alors c'est quand même quelque chose. Il faut bien considérer qu'il y a là quelque chose qui est important à saisir. Ensuite, on va essayer de dépasser Nietzsche, de dépasser Hegel. Dépasser Hegel, c'est justement dépasser l'ontologie, parce que vous comprenez l'idée d'infini et la dialectique hegelienne. Hegel, c'est l'ontologie poussée à l'extrême. De Descartes à Hegel, c'est l'ontologie poussée à l'extrême. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, Hegel fait le lien entre les deux. Il est à la fois ontologiste et il est à la fois athée. Il n'est pas athée, hein, c'est jamais dit athée. Mais il confond l'esprit de l'homme et de Dieu. Donc à ce point de vue-là, il faut leur parler.
Est-ce que pour lui, ça aurait une signification ce que nous disons? Je dis que finalement.
Bah, une signification dans la mesure où vous comprenez qu'il y a une différence entre l'intentionnalité et la réalité.
Oui, mais justement, pour lui, est-ce que.
Non, ok.
Donc ça n'a plus de signification. Ce problème n'existe plus.
Souvent, l'exigence, il existe toujours parce qu'on vient à la connaissance. Hein, c'est autre chose. Mais, il y a deux choses, deux problèmes. Ici, nous sommes dans les sommets. Comment nous pourrions essayer de critiquer Hegel, c'est de regarder le point de départ des idées. Autrement dit, le rôle des sensations dans notre vie intellectuelle. Ça, c'est la chose sur le point de départ. C'est un peu... Depuis le départ, on a vu les sensations de... On est parti du cogito. Il y a un lien entre tout ça. Le cogito est premier. La conscience est première. Et alors, la critique qu'on peut faire à Descartes, la critique qu'on peut faire à Hegel, c'est uniquement de montrer que les idées, c'est pas premier. Et vous n'avez pas d'idée, mais c'est très difficile. C'est très difficile, ils sont tellement ancrés dans les idées que dès que vous dites ça, ils disent, pas du tout, c'est naïf. Vous êtes dans la naïveté. Alors, il faut répondre que le plus grand naïf, c'est pas celui qu'on pense. Parce que quand vous prenez de fait la naïveté pour l'expérience extérieure, c'est pas la naïveté, c'est tout simplement le respect de l'autre. Être naïf, c'est de regarder que soi. C'est ça la naïveté, c'est de regarder que soi. J'ai découvert pendant la nuit que la Terre tourne autour du Soleil. Et je le dis, parce que ça vient de moi, j'ai découvert. Cette espèce de naïf, c'était bien aventureux. On est naïf quand on croit que tout vient de nous. C'est ça la naïveté suprême. Donc, la philosophie la plus naïve, c'est celle de Hegel. Et c'est pour ça qu'il prend une dialectique si puissante, parce que la naïveté doit se pêcher à travers quelque chose de puissant. Il y a une simplicité de magnifique. C'est extraordinaire de voir ça. Et au fond, je crois que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que c'est que la naïveté? La naïveté, c'est de ne pas accepter l'autre. La naïveté, c'est de vouloir toujours être premier. Toujours être premier. Et croire que tout vient de nous. Et c'est suprêmement naïf quand il y a des gens qui existent avant nous. Il y a des gens qui ont pensé avant nous. Et donc, le respect à l'égard de l'autre, c'est la seule manière d'éviter la naïveté. On a le droit d'être naïf une fois à l'égard de Dieu. Parce que Dieu nous regarde comme un père qui est très heureux de voir nos initiatives. Et qui nous dit toujours, oui, c'est merveilleux ce que tu es en train de jouer. Mais en même temps, il nous rattrape. Hein. Là, il y a un danger. Mais au fond, on a le droit d'être naïf. Un gosse a le droit d'être naïf à l'égard de son père et sa mère. Et son père et sa mère sont très contents. Mais quand il arrive à un certain âge, il continue d'être naïf. Son père dit, attention, tu n'es plus un boss, attention. Il continue d'être naïf à l'égard des autres. Et non, il doit faire attention. On doit respecter l'autre. Et respecter l'autre, c'est justement sortir de la naïveté. Bon, alors ceci, c'est pour vous montrer. Vous voyez, on voit l'historique, c'est très simple. Très intéressant de voir ça, la philosophie des sommets, et voir comment, de fait, des idéologies athées d'aujourd'hui proviennent d'une libération de l'homme par rapport à l'anthologie. Et l'anthologie, c'est une lecture. Alors, comment se pose dans notre monde d'aujourd'hui le problème philosophique, comment, à partir de la personne humaine, puis-je découvrir l'exister d'un être premier ? Existe-t-il un être au-delà de la personne humaine ? J'en viens au problème. Et je dis que je ne peux découvrir l'exister de Dieu qu'à partir du jugement d'existence. Alors ça, ce sera la fois prochaine. C'est important de voir que c'est à partir de l'existence de Dieu. Vous voyez, à partir de l'existence, du jugement d'existence. Je dois faire ça aujourd'hui. Parce que Kant a montré qu'il n'y avait pas possibilité de voir l'existence de Dieu. Eh bien, je montre que seul par l'exister, c'est que Kant n'a pas dit. Donc il y a, comme on dit aujourd'hui, un créneau que Kant a laissé et un créneau dont je me saisis pour entrer dans le passant. Et Kant a oublié, il a oublié quelque chose. Il a cru que toutes les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, c'était l'ontologie. Mais il montre non. Il y a quelque chose de plus primitif que l'ontologie, c'est le jugement d'existence. Alors, une seconde hein, pour les examens. Il y en a combien parmi vous, indépendamment des licences hein, les licences, c'est autre chose. Mais combien parmi vous qui devez passer d'examen ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Alors, vous pourrez vous faire inscrire chez M. Pasquale. Hein ? Bon. Alors, et on organisera ça pour vous, sans doute, dans 15 jours. Je reviens dans 15 jours. Parce que à partir du 20, je peux passer une licence. Alors, ou gêner, s'il y en avait vraiment qui voulaient après, vous pourrez toujours dire, moi j'aime mieux que ce soit le 20. Parce que dans 15 jours, c'est le premier, c'est le 14. Hein. Lundi. 13. Lundi 13.
Non,
mardi.
Vous revenez dans un mois aussi.
Non, c'est fini.
J'entends pour les licences.
Je reviendrai. 20, 21, 22. Vous terminez. Et 23, voir sur 3. 21, 22. On fait un condensé de licences, un cocktail de licences, parce que c'est 13 licences qu'on doit passer comme ça. C'est un cocktail qui est là. Je pense que c'est quelque chose qui sent bien. C'est pas qu'elle sera peut-être plus fatiguée, si c'est sûr que pas, on a peut-être plus fatiguée. Alors, il dira, après, je reviens avec lui.
Et puis, il m'a fait comprendre que c'était pas dur. n'a pas retraité. Ah non. Alors, et puis encore la montre, c'était de nouveau. De 1, 6, 2, 3.